Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 18 mai, on se prépare à prendre la vague de réouverture. Nous vous emmènerons dans les vitrines dépoussiérées du printemps Haussmann à la veille du jour J. La France a-t-elle bien géré la crise? Un rapport de la mission Covid vient d'être rendu. Des ratés sur les masques, mais un soutien économique exemplaire. Dans RTL Midi aussi, les 26 de Dédé, Didier Deschamps doit dévoiler ce soir. En direct sur M6 et TF1, sa liste pour l'Euro de foot qui démarre le 11 juin. Et cette éternelle question, y aura-t-il Karim Benzema? Nous serons aussi en ligne avec Marie Portolano, le nouveau visage du foot sur M6 qui sera aux côtés du sélectionneur en direct à 20h20. Renaud Muselier garde le soutien de son parti Les Républicains pour les régionales en PACA, qui compte aussi des membres de la majorité, épilogue d'une jolie crise de nerfs. 6000 migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta en 24 heures seulement, 1500 ont été renvoyés vers le Maroc. Nous verrons les raisons de cet afflux soudain. La météo. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
C'est lassant.
Oui, je sais bien. Et malheureusement, ça continue. Une perturbation sur toute la moitié sud, alors qui donne surtout un ciel couvert, hein, juste quelques averses. Toujours mieux près de la Méditerranée et la Corse, avec beaucoup de vent. Et sur toute la moitié nord, c'est un régime d'averses, alors ponctuel, mais marqué, localement orageuse, avec un peu de vent. Il y a quand même une petite zone où ça s'améliore au fil des heures, tout doucement entre la côte d'Opale et la côte normande. Faut le signaler quand même quand il y a du mieux.
Oui.
Et côté température, bon, bah, ça reste frais pour la saison, hein, compris globalement entre 13 et 17 degrés, jusqu'à 24 près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. La France est-elle favorite pour l'Euro de football? On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, mais depuis que vous avez posé cette question, les choses évoluent et toutes les rédactions bruisent de l'arrivée de Karim Benzema.
La rumeur,
disons-le, c'est nos confrères du Parisien qui annoncent un conditionnel quasiment au futur. Donc c'est une question qu'on va poser aux auditeurs. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps doit sélectionner Karim Benzema? On parlera de la réouverture des terrasses, bien sûr, des salles de cinéma, des boutiques. Que comptez-vous faire demain? Est-ce que vous allez aller au ciné ou en terrasse? Et puis, comprenez-vous la présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demain à la manifestation des policiers? C'est vrai que c'est insolite. Est-ce que c'est la place d'un ministre de manifester avec ses propres policiers devant l'Assemblée nationale?
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Marcel, deux cafés pour la carte, s'il te plaît. Et un soda pour la petite dame.
Et vous, que ferez-vous demain? Irez-vous prendre un verre en terrasse, visiter une expo, retrouver les salles obscures ou tout simplement faire du shopping? À J-1, on rafraîchit les vitrines. Arnaud Touche, vous suivez les préparatifs au magasin du Printemps Haussmann à Paris.
Dans les boutiques du grand magasin, on déballe les tout derniers cartons et on épouste et on nettoie les vitrines des grandes maisons de joaillerie. Un peu plus loin, certains vêtements sont encore sous plastique de protection et Sophie prépare ses rayons depuis jeudi dernier.
Bien sûr, on fait de la manutention, on remet les produits, ou bien sûr la propreté du rayon. Voilà, au bout de 3 mois de fermeture est importante.
Et pour elle, cette réouverture a une signification particulière.
Nous avons remis en place les nouveautés et nous attendons avec impatience toutes nos clientes.
Hein. Contente, heureuse?
Ah oui, bien sûr, tout à fait, très motivée, même au bout de 41 ans, 40 ans de maison. Voilà. Médaillée Grand Or bientôt, et j'en suis très fière.
Un enthousiasme partagé par Michael Baudin qui décrit
l'effervescence, le rythme de plus en plus soutenu jusqu'à la réouverture.
Il est le manager des ventes du printemps et il a un œil partout.
Alors là, on en est plutôt aux petites touches de dernière minute. Il y a la signalétique, indiquer les opérations qui vont commencer dès la réouverture, bien présenter tous les articles, présenter les nouveaux concepts pour que nos clients, dès qu'ils entrent dans le magasin, voient ce qui est nouveau.
Demain matin, plus aucun carton ne sera visible et les clients découvriront un magasin profondément transformé.
Et cette réouverture doit être un succès collectif, dit ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et il promet que le fonds de solidarité sera maintenu au mois de mai pour les établissements qui ont des terrasses. Autre bonne nouvelle, la fête de la musique est maintenue le 21 juin, avec un couvre-feu à 23h. Pas de passe sanitaire, promet Roselyne Bachelot. On pourra danser, mais ce sera une fête masquée. La ministre de la Culture sera l'invitée de Thomas Soto à 18h15 dans RTL Soir. La France a-t-elle bien géré la crise sanitaire depuis plus d'un an? Le professeur Pité, célèbre épidémiologiste suisse, avait été mandaté par l'exécutif pour rédiger un rapport. Il vient de le remettre et on retient la mention « peut mieux faire » car la France n'était pas prête, Odile Pouget.
Oui, niveau de préparation insuffisant, faiblesse de l'anticipation. Le rapport pointe quelques failles dans la gestion de cette crise. Pas de pilotage clair, par exemple pour les masques, dont les stocks étaient gérés par Santé publique France, alors que cette agence sanitaire n'a pas vocation à faire de la logistique. Pas de pilotage clair non plus pour les tests. Didier Pittet, président de cette mission.
Ce qui était compliqué, c'est de mettre en musique l'utilisation du test, parce que la biologie française est un peu compliquée. Il y a du mélange public-privé qui avait de la peine à travailler ensemble, et ça va être corrigé. Et aujourd'hui, la France est un pays qui teste énormément, et donc on est vraiment dans la bonne direction, c'est certain.
Concernant les vaccins, le rapport dénonce également un manque de réactivité lors de la préparation des approvisionnements, mais les experts félicitent aussi les autorités d'avoir su tirer les enseignements et d'avoir nettement amélioré les choses au fil des mois. Ils formulent également 40 propositions pour faire mieux, pour anticiper les prochaines crises, accent mis notamment sur la mise à jour régulière d'un plan pandémie et sur le renforcement du dispositif de la réserve sanitaire.
Odile Pouget, alors on n'est pas encore sorti de cette crise, mais elle bouscule déjà le marché de l'immobilier. D'après une enquête Se Loger Empruntis, les villes moyennes autour des grandes métropoles sont très prisées en ce moment par les télétravailleurs qui y gagnent en espace et en qualité de vie. Et certaines municipalités les draguent carrément. C'est le cas du maire de Châteaudun, une ville de 13 000 habitants en Eure-et-Loire, Christian Panvert.
Élu depuis juillet 2020, Fabien Verdier fait un rêve éveillé.
Nous pouvons être un peu une forme de petit Deauville du sud de Paris.
Le maire de Châteaudun, 40 ans, sans étiquette, énumère les atouts de sa commune, 58 monuments classés, 250 associations, à 1h25 de Paris en voiture ou en train. Il espère attirer de nouveaux habitants et pour ça, n'hésite pas à baisser ses impôts locaux.
Sur la taxe foncière sur le bâti, on fait moins 4 points, moins de 13,5%. Pareil sur la taxe foncière sur le non bâti.
Cette sous-préfecture a perdu une base aérienne qui fermera à la fin de l'année. Elle a donc été classée en zone de restructuration de défense, un atout sur le plan économique.
Les entreprises qui créent une société à Châteaudun, qui se développent, ne paieront pas d'impôts pendant 5 ans.
Fabien Verdier veut aussi élever le niveau de formation. Une licence pro unique en France, management et gestion des organisations, a été créée au lycée. Christine Le Gall, enseignante.
Avant d'avoir notre formation Bac plus 3, nos jeunes partaient. Si on commence à garder les étudiants ici, d'autres jeunes voudront venir s'installer.
La municipalité mise sur un autre avantage, le prix de l'immobilier qui reste raisonnable. Pierre Philippon, gérant d'agence.
Pour un budget de 150 000 euros, vous pouvez bénéficier d'un joli bout de terrain, environ 500 à 600 mètres carrés, avec un beau pavillon entre 80 à 120 mètres carrés, habitable dans l'immédiat et qui a un cadre de vie qui est très attractif.
Sur les documents de la ville, on peut lire « Plaît Châteaudun ». Jouer Châteaudun, la commune a donc fait le pari d'attirer l'attention des franciliens candidats au départ.
Et c'est réussi, Christian Panvert. À l'étranger, tout est bon pour motiver les citoyens à la vaccination. En Chine, après les bons de réduction et les œufs gratuits, le rap diffusé sur les réseaux sociaux avec un refrain on ne peut plus clair. Fais-toi vacciner vite. Dans un instant, l'Euro de football, Didier Deschamps nous présentera sa liste ce soir.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Le sport reprend ses droits. L'Euro de foot démarrera le 11 juin avec un an de retard. Mais ce soir, c'est déjà demain. Didier Deschamps va présenter sa liste de 26 joueurs. Le sélectionneur de l'équipe championne du monde n'est pas un homme de surprise. Alors, à quoi peut-elle ressembler, Nicolas Jean-Marie?
Ce sont déjà des visages connus parce qu'il y a une ossature, un socle. Certains ne vont pas trembler ce soir devant leur écran car ils savent déjà qu'ils sont de l'aventure. Les Griezmann, Mbappé, Loris, Mandanda, Varane ou encore Pavard, Pogba, Kanté, etc. autour de 13-15 champions du monde environ sur 26, avec des joueurs aussi très régulièrement convoqués ces derniers mois, Coman, Rabiot, Zouma par exemple. Et la part d'incertitude, elle se situe à la marge en raison de blessés. C'est le cas de Thomas Lemar de l'Atlético de Madrid, sacré en Russie, qui est touché à la cuisse. Anthony Martial, l'attaquant de Manchester United. Ferland Mendy, le défenseur du Real Madrid, très incertain. Jusqu'à ce matin, il y a eu concertation avec les staffs médicaux des différents clubs pour s'assurer de l'état de forme des uns et des autres.
Bon, et l'hypothèse Benzema.
Alors, s'il veut surprendre, ce n'est pas dans son habitude, mais
c'est
pourquoi pas. Karim Benzema, il ne faut pas le cacher, ce serait une énorme sensation. Ça ouvrirait aussi beaucoup de questions. Il n'a plus été appelé, on le rappelle, depuis 5 ans et demi. Il n'a plus joué un match avec. Il n'a jamais joué un match avec Mbappé, par exemple. Mais c'est l'un des meilleurs attaquants, sinon le meilleur attaquant français cette saison. Deschamps disait il y a encore quelques jours dans une interview à un journal allemand : « Je ne suis pas le Père Noël, je ne suis pas là pour les surprises. » il a peut-être trompé son monde.
Bon, alors avec ce groupe, la France est-elle favorite pour l'Euro de football? C'est la question du jour sur RTL.fr et sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs, Pascal Praud.
La réponse est clairement oui. D'abord, la France est championne du monde. Elle a un effectif stable. Mbappé, Griezmann, Pogba, Loris, Varane. À chaque poste, vous apercevez qu'il y a quasiment un des meilleurs, sinon le meilleur joueur au monde à ce poste. Didier Deschamps est un génie. Vous le savez. Et puis, les autres sélections ne sont pas très fortes. Elles sont en reconstruction. Je pense par exemple à l'Espagne, à l'Allemagne. Donc, c'est des équipes évidemment de talent, mais qui n'ont pas la maturité, sans doute l'expérience française. Donc, pour toutes ces raisons, on peut considérer que la France est favorite de l'Euro.
Vous êtes d'accord, hein, Nicolas ?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a pas mal de sélections effectivement qui n'ont pas encore retrouvé l'allant qu'elles avaient ces dernières années. Il y aura peut-être des surprises, comme l'Angleterre, qui n'a jamais été sacrée récemment.
Non, mais arrêtez avec l'Angleterre. Mais... L'Angleterre, on en parle avant une compétition, elle n'a plus rien gagné depuis 66.
Mais c'est donc, vrai. Demi-finale voilà. De la Coupe du Monde en 2018. On verra, peut-être ce sera France-Angleterre en huitième de finale et ce sera formidable.
Le débat est ouvert, je vous laisse à vos pronostics, pardon, on en reparlera tout à l'heure abondamment avec les auditeurs. Et nous sommes avec Marie Portolano, le nouveau visage du foot sur M6. Bonjour.
Bonjour.
Bah, bienvenue dans le groupe M6. Et quelle arrivée ce soir face au sélectionneur, 20h20 en direct. Belle entrée en matière quand même.
Je ne pouvais pas rêver mieux, je pense. Non, merci beaucoup. Bah, écoutez, oui, je suis ravie. Quand Guillaume Charles et M6 m'ont proposé de faire l'interview de Didier Deschamps, je me suis dit que j'avais atteint le graal du métier de journaliste sportif. Ouais. Donc, je suis très, très, très heureuse.
Alors, est-ce que vous avez déjà fait votre liste, puisqu'on dit qu'en France, il y a 67 millions de sélectionneurs, donc vous êtes quand même bien placée?
Alors, moi, je n'ai pas fait ma liste, mais j'attends de voir ce que Didier Deschamps va lui décider.
Alors, vous aviez dit que, de toute façon, il n'y aurait pas de questions tabou avec Didier Deschamps. Ça veut dire que, par exemple, une question sur Karim Benzema, c'est possible?
C'est possible.
C'est même probable.
On attend de voir ce que le sélectionneur va décider et on s'adaptera ensuite à ses choix. Mais des questions comme ça peuvent effectivement être posées ce soir.
Comment allez-vous articuler l'interview qui sera partagée avec Nathalie Iannetta en même temps sur TF1 et sur M6 donc?
Alors, on préconise une équité totale. Hein. On va faire vraiment une interview 50-50. Tout dépend évidemment du temps que Didier Deschamps va prendre à donner sa liste. On a à peu près une quinzaine de minutes, grosso modo. Donc, je pense qu'on pourra poser derrière la liste à peu près 5 questions chacune.
Vous parliez d'équité totale, mais quand même, une équipe 100% féminine, ça nous change.
Ça fait du bien, non?
Oui, ça fait du bien. Quelle serait la surprise pour vous dans cette liste ce soir?
La surprise, ce serait par exemple la sélection de Jules Koundé ou alors la non-sélection de certains grands joueurs.
Vous parliez du défenseur de Séville ?
Oui, exactement. Ou alors, j'ai hâte de voir ce que va donner le choix de Didier Deschamps sur les champions du monde. Par exemple, Samuel Umtiti, les joueurs comme ça qui ont participé au sacre en 2018, vont-ils être sélectionnés ce soir ? C'est la question.
Au final, il y aura 5 émissions spéciales sur M6. Comment ça va se passer ?
Alors, donc, ça s'appellera 100% Euro. C'est un magazine qui encadrera le match. On sera là en avant-match, puis surtout en après-match, avec des chroniqueurs, des sportifs et des non-sportifs. Donc là, notamment le nom d'Alain Bogossian a été évoqué pour être le footballeur qui va m'accompagner en plateau. Oui. Ça va être une émission assez chouette, je pense, à regarder. Je pense qu'on va beaucoup se baser sur l'humeur. Voilà, je pense que ça va être assez chouette, quoi.
Rendez-vous ce soir à 20h20, c'est la première étape pour vous?
C'est la première étape pour moi et j'espère la première étape d'une longue traversée avec M6.
Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Marie.
Je vous remercie. À vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Et cette séquence ce soir sur TF1 et sur M6 préfigure de la fusion à venir. Bouygues, la maison mère de TF1, va prendre le contrôle du futur groupe avec 30% des parts. Et c'est Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, qui pilotera ce poids lourd des médias. La transaction sera finalisée d'ici la fin 2022. Il faudra bien tout ce temps, Martial Liu, pour ne pas se faire retoquer par l'autorité de la concurrence.
D'ici fin 2022 au mieux, hein, oui, parce que le parcours effectivement qui attend TF1 et M6 est semé d'embûches, parce que le groupe qui va naître de cette cette fusion sera le plus important d'Europe en termes d'audience et pèsera 72% du chiffre d'affaires publicitaire en France. Les autorités de la concurrence vont donc éplucher le projet pour éviter une situation de monopole et préserver l'équilibre financier du secteur. Il faudra par exemple que TF1 et M6, qui possèdent 10 chaînes en tout, entre les antennes historiques hertziennes et puis la TNT, en cèdent 3. Les annonceurs publicitaires, les producteurs de séries ou de films vont aussi mettre la pression parce que ça signifie qu'ils auront potentiellement moins d'acheteurs et moins d'espace qu'avant. Il y a donc un certain nombre d'obstacles à lever. Mais l'actionnaire historique d'M6, l'allemand Bertelsmann, a choisi d'entrer en discussion exclusive avec Bouygues parce que l'idée, c'est de constituer un groupe industriel solide, capable de résister à la concurrence de plus en plus forte des plateformes numériques comme Netflix, Amazon Prime, Apple ou Disney. Des groupes mondiaux qui peuvent produire des séries à gros budget et les diffuser dans le monde entier. Et c'est aussi cette dimension de résistance et d'exception culturelle qui a été retenue par Bertelsmann. En attendant ce matin, eh bien, la bourse salue ce rapprochement. Hein. Plus 4,5% en ce moment pour M6 sur le CAC 40, en tout cas à Paris. Et plus 7,4% pour TF1.
Martial Liu, on fait une pause et dans un instant, ces policiers qui ne veulent pas que leur manifestation demain ne se transforme en tribune politique.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Du monde, beaucoup de monde attendu demain du côté de l'Assemblée nationale à l'occasion de la manifestation des policiers après le meurtre du brigadier Éric Masson sur un point de deal à Avignon. C'était au début du mois. Les citoyens sont invités à y participer. Les politiques s'y invitent. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur ou encore l'écologiste Yannick Jadot. Mais le syndicat Synergie officier les met en garde. Patrice Ribeiro en est le secrétaire général.
Nous, nous demandons à avoir le plus large soutien possible. Que des membres du gouvernement veuillent venir, ils ont tout à fait le droit, ils sont les bienvenus. Mais en tout état de cause, nous n'offrirons aucune tribune aux politiques, ni à aucun membre du gouvernement, quel qu'il soit. Cette manifestation, c'est d'abord les policiers, pour les policiers. Et si des politiques veulent venir pour rencontrer nos collègues et rencontrer nos concitoyens, eh bien à ce moment-là, ils sont les bienvenus. Mais en tout état de cause, ils n'auront pas de piédestal et n'auront pas de tribune.
Patrice Ribeiro de Synergie officier avec Alice Moreno. Des violences hier soir à Argenteuil dans le Val d'Oise. Une cinquantaine de jeunes ont pris à partie des policiers, voitures incendiées. 80 tirs de mortier auxquels les forces de l'ordre ont répondu par autant de tirs de grenades et de lanceurs de balles de défense. Il n'y a pas eu de blessés. Il y a un an pile, un jeune homme était mort dans un accident de moto près d'une voiture de police. Le parquet avait classé l'affaire sans suite. Cette fois, on approche sans doute de l'épilogue dans le feuilleton Muselier. La tête de liste des Républicains régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'était engagé à prendre des parlementaires de son parti sur sa liste. Or, il ne l'a pas fait. Liste ouverte par ailleurs à la majorité présidentielle, d'où un nouveau conseil stratégique du parti ce matin. Mais il garde l'investiture LR, Marie Mollet.
Oui, pas de bain de sang ce matin, dixit un participant, car au siège du parti, les ténors de LR sont tombés d'accord sur un point. Oui, Renaud Muselier nous a menti. Oui, il nous a fait cocu, lâche un élu. Mais il est trop tard pour lui retirer totalement notre soutien. Alors à la sortie, le patron des LR, Christian Jacob, a tenté le grand écart.
Renaud Muselier a fait une erreur politique. Il a commis une faute en cédant ainsi aux manœuvres élyséennes. Ceci étant, nous sommes maintenant dans le cadre de la campagne électorale. Il est évident que nous souhaitons la victoire de Renaud Muselier, candidat à Les Républicains, bien évidemment.
Vous l'entendez, hein, Renaud Muselier a fauté d'après ses amis, mais LR souhaite encore sa victoire. Bon, d'accord, c'est un peu alambiqué, reconnaît un cadre, mais c'est la moins pire des solutions. On ne va pas non plus clouer son cercueil face au RN. De l'amertume hein, chez les poids lourds LR qui ce matin ont surtout fait le constat de leur impuissance face au piège tendu par Emmanuel Macron.
C'est une façon de fermer la parenthèse. Merci Marie. À l'étranger, Israël a ouvert un passage vers Gaza pour des humanitaires, une décision saluée par l'ONU. Depuis 8 jours, les violences ont fait au moins 222 morts en grande majorité des Palestiniens. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'arrive pas à obtenir un cessez-le-feu, doit se réunir une quatrième fois en urgence. 6000 migrants arrivés en 24 heures seulement dans l'enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc. Un mouvement sans précédent et très spectaculaire. Émilie Beaujard, sur cette porte d'entrée de l'Europe normalement infranchissable.
Oui, ils sont arrivés à la nage, certains avec des bouées d'enfants, depuis les plages marocaines à quelques dizaines de mètres
au-delà. Beaucoup de jeunes adultes et de mineurs en maillot de bain ont escaladé les rochers pour passer la haute clôture de sécurité. Certains de ces migrants ont été regroupés sur un terrain de foot, d'autres errent en ce moment dans les rues de la ville et les autorités sont débordées. Cet afflux de migrants serait dû à un différend diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. Selon les médias espagnols, les autorités marocaines auraient assoupli leur surveillance des côtes volontairement pour faire pression sur Madrid. L'affaire est prise très au sérieux en Espagne. Le Premier ministre a annulé un voyage prévu en France aujourd'hui et 2700 migrants ont déjà été renvoyés au Maroc. Mais ce midi encore, des centaines de personnes attendent de traverser à la nage et l'armée espagnole a été envoyée en renfort sur les plages de Ceuta.
Et l'Europe demande au Maroc d'empêcher les départs irréguliers depuis son territoire.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Un outil pour réduire la fracture numérique, avoir un meilleur accès aux services publics en ligne, pouvoir scanner, imprimer des documents. Une start-up du Petit Quevilly vient de créer une cabine connectée, Frédéric Veil.
C'est ici, dans la banlieue de Rouen, que ces cabines sont fabriquées. Tout de suite, on remarque le design soigné de ces cabines où l'accès est sécurisé.
Et voici, je vous présente la WIM, une cabine acoustique intelligente qui vous propose un espace de travail connecté et des usages d'inclusion numérique.
Emmanuel Rattel est le dirigeant de la société WIM.
L'intérêt, c'est sur peu de mètres carrés, d'amener une zone de confidentialité. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'échange avec la personne en visio, personne ne peut vous entendre. C'est clairement en opposition avec une borne où vous êtes au milieu du hall, tout le monde peut voir, tout le monde peut vous entendre, etc. Là, il y a une zone d'intimité. Alors c'est destiné à d'une part tous les nomades, ceux qui sont en mobilité pour leur travail, et ensuite pour tous les exclus du numérique, donc tous ceux qui n'ont pas la connexion Internet, la WIM amène tout clé en main.
Ces cabines, dont l'un des modèles peut aussi permettre une téléconsultation de santé, commencent à se déployer en France. Elles sont destinées à rejoindre les mairies, les campus étudiants ou encore les gares. Une centaine devraient être installées en France dans les prochains mois.
Reportage Frédéric Veil. Enfin, le parvis de la cathédrale Notre-Dame, fermé provisoirement au public ce matin par la préfecture de police de Paris. Il y a encore une concentration trop importante de poussière de plomb. On est quand même plus de 2 ans après l'incendie. Pascal Pro, c'est à vous, dans 5 minutes, avec les auditeurs. On va parler foot.
Branle-bas de combat. Je répète le message, branle-bas de combat.
Un peu à la
Karim
Socco,
Benzema un est annoncé. Socco, en... oui. Non mais c'est un truc de fou. Si Karim... On va être avec Philippe Sanfourche.
Il est au conditionnel encore, hein, quand même.
On va être avec Philippe Sanfourche qui viendra dans le studio avec Nicolas Georgerot. Si Karim Benzema revient en équipe de France, c'est un tremblement de terre parce que c'est l'exact contraire de ce que dit Didier Deschamps depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Mais visiblement, c'est une hypothèse qui prend corps ces heures dernières et dont Sanfourche et Georgerot, notre duo magnifique, va expliquer, commenter, analyser, décrypter. Avec les auditeurs, bien sûr, c'est les auditeurs qu'on attend.
J'espère bien.
Vous y croyez vous-même ?
Vous voulez que je vous dise, je n'en sais rien. J'espère juste que ce n'est pas inconditionnel pour rien. Voilà. Et qu'on n'aura pas
Philippe,
parlé
en
pour
tout
rien.
Cas, nos deux amis sont extrêmement prudents parce que c'est très dur, évidemment, de vérifier ce genre d'affaires.
Évidemment. Alors, la météo, Peggy Broche, on est entre le moche et le pire.
Comme c'est bien résumé, Christelle. Oui, c'est bien dit. C'est vrai que sur toute la moitié sud, c'est un ciel bien plombé. Mais non, Pascal, elle n'oserait pas.
On ne parle pas toujours de vous.
Un ciel donc bien gris, simplement quelques averses, plus localisées. Ça reste toujours mieux près de la Méditerranée, même s'il y aura plus de nuages cet après-midi que ce matin. Très beau toujours sur les plages de la Côte d'Azur. Et la Corse où le ciel est bien dégagé, mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de vent, ça souffle jusqu'à 90 km/h. Et puis sur toute la moitié nord, là, un temps encore instable, avec certes des éclaircies, mais aussi des passages nuageux, des averses parfois marquées, parfois orageuses, avec du vent. Bon, vous l'avez compris, un temps assez instable. Ouais. On va positiver parce qu'on a une belle amélioration qui arrive, mais alors vraiment dans les heures, sur les plages normandes et de la Côte d'Opale. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça de prix.
Oui.
Côté température, pas grand-chose à signaler, c'est toujours frais pour la saison. De 13 à Brest à 24 à Nice, c'est toujours plus chaud hein, près de la Méditerranée. 15 à Strasbourg et Bordeaux, 16 à Rennes et Paris, 17 à Lyon et Toulouse, 19 à Montpellier et 21 à Marseille.
Bon, et demain pour la réouverture, donc les Français se lâchent, mais les nuages aussi.
Oui, ils seront nombreux, les nuages pour l'ouverture des terrasses. Alors surtout au nord, avec une nouvelle perturbation prudent sur une large partie nord-ouest le matin. Des averses fréquentes, localement orageuses entre les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre de la France. Ailleurs, un peu plus éclairci, un peu moins d'averses. Et toujours beau sur le sud-est, ça va rester beau toute la journée. Dans l'après-midi, cette zone perturbée, elle va se décaler sur toute une partie nord du pays, sauf à l'ouest. Des averses fréquentes, des orages, du grésil, du vent. Pas beaucoup mieux à vous proposer. Et puis à l'ouest, par contre, et dans le sud, ce sera un peu mieux. La bonne nouvelle, c'est que les éclaircies vont revenir en fin de journée, certes, par la façade atlantique. Mais je vous en parle pourquoi ? Parce que demain, ce sera décalé le couvre-feu, 21h.
Oui,
donc 21h. On pourra prendre un verre en terrasse en fin de journée sur l'ouest du pays.
Et puis vous viendrez avec moi demain, RTL Midi. On sera en
avec
direct
plaisir.
D'une terrasse à Paris dans le 19e.
Sous les averses, donc et les orages à venir. Mais je serai là quand même.
Mais le cœur y sera, exactement. C'est l'essentiel. Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La folle rumeur qui enflamme les rédactions depuis 2 heures. Karim Benzema reviendrait en bleu. J'aime pas utiliser le conditionnel. D'ailleurs, a priori, les journalistes ne devraient jamais utiliser le conditionnel. C'est une règle de base. Mais il n'empêche que cette rumeur existe depuis 2 heures. Arnoul de Bonjour.
Bonjour Pascal, mais on est le 1er avril ou on n'est pas le 1er avril
Non mais d'abord, vous y croyez ou vous y croyez pas, vous allez nous le dire, mais est-ce que vous le souhaitez ou pas?
Sincèrement non, je ne le souhaite pas parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas été sélectionné dans l'équipe de France qu'il ne fait pas partie du groupe.
Bah vous allez nous expliquer tout ça. Pour le moment, c'est le rappel des titres avec Christelle.
Après 203 jours de fermeture, le bout du tunnel pour les restaurants, théâtres, musées, commerces, même s'il y a encore des restrictions, la France va bientôt arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, dit le ministre de la Santé, Olivier Véran. La fusion entre TF1 et M6, un mariage de stars pour créer un poids lourd des médias français. TF1 va racheter 30% des parts du groupe et c'est Nicolas de Taverneau de M6 qui pilotera la future structure. La transaction sera finalisée d'ici fin 2022. La grande manifestation des policiers demain devant l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, y participera, tout comme l'écologiste Yannick Jadot. Le syndicat policier Synergie Officier prévient, nous n'offrons pas de tribune aux politiques. Eurostar échappe à la faillite. Cette filiale à 55% de la SNCF a conclu un accord de financement avec ses actionnaires et ses banques. Elle n'opère plus qu'un aller-retour par jour entre Paris et Londres, au lieu d'une quinzaine avant la pandémie.